À l'occasion du salon d'édition indépendante Offprint 2024, Dieu réalise une série d'entretiens autour de l'édition contemporaine en partenariat avec le CNAP, Centre National des Arts Plastiques. Yagna Shurta, Émilie Renard et Martha Salim-Beni présentent la monographie de l'artiste publiée par Mousse Publishing, Jeux dilatés, Images liquides et Plantes carnivores. Bonjour à toutes.
Bonjour.
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 Yagna, tu es artiste. Au mois d'octobre dernier paraît ta première monographie intitulée « Jeux dilatés, images liquides et plantes carnivores » éditée par Mousse Publishing. Émilie Renard, tu es co-directrice de publication aux côtés de Maud Jacquin. Et Martha Salim-Beni, tu as réalisé la conception graphique de l'ouvrage. Comment allez-vous ?
Ça va.
Ça va. Yagna, on va revenir un peu avant la monographie, en 2014, quand tu commences ta thèse, dont le titre de la monographie d'ailleurs est inspiré. Tu peux nous parler de ce travail de recherche que tu as soutenu en 2019 ou 2020, j'ai un doute.
Cette thèse. Je l'ai soutenue en 2019.
Ouais.
Eh bien, c'était une recherche qui... Oh là là, je ne pensais pas parler de ma thèse, en fait.
Un tout petit peu, quelques mots pour qu'on comprenne
en fait,
d'où...
C'est un projet qui est arrivé après, qui a été un peu inspiré par l'expérience de deux expositions que j'ai faites, qui sont notamment deux premières expositions qu'on peut voir dans le livre historique, dans lesquelles j'ai invité d'autres artistes à s'installer à l'intérieur d'une sorte de... scénographie disponible, échangeante. Et c'est suite à ces deux expériences, donc The Grey Room à Como, à la Fondazione Antonio Ratti, et dans l'exposition Eat the Blue à Montreuil, que je me suis dit qu'il se passait quelque chose dans mon travail que j'ai envie de creuser de manière pratique hein, dans mes expositions, mais aussi je me suis dit que ça donne plein de pistes à développer dans un cadre de recherche.
Et donc c'est l'année suivante, il me semble, que cette idée de la monographie est arrivée. Est-ce que c'était en discussion toutes les deux, Émilie ? Je crois que tu étais à la soutenance de thèse de Yagna. Et il me semble qu'il y a eu une discussion, non ? C'est ce que tu me disais, Yagna, qui a fait émerger cette idée de la monographie.
Oui, c'est vrai qu'après la soutenance et pendant même les préparatifs de la soutenance, j'étais beaucoup encouragée par les personnes qui étaient dans le jury à publier ce qu'on appelait dans la thèse pratique aux Beaux-Arts et PSL Université... portfolio de thèse, parce que c'est l'exposition qui fait objet, c'est le travail pratique qui fait l'objet de la thèse, mais il y a un portfolio qui l'accompagne. Et donc, ça ne me paraissait pas si intéressant de le publier comme ça, mais ça a fait un petit peu son chemin, et on a commencé avec Émilie à peu près un an plus tard. Discuter, réfléchir si ça ferait sens de faire un livre.
Et toi, Émilie, du coup, c'est quoi qui a fait que tu as eu envie d'avoir cette discussion justement sur l'idée de la monographie ?
Oui, moi j'avais l'impression que faire relater une histoire de l'art de Yagna dans un livre, c'était important et ça avait beaucoup de sens, non seulement parce que Yagna, elle pratique aussi l'écriture, et qu'elle documente son propre travail et ses évolutions. Et le livre, c'est un support super pour retracer ça, retracer toutes les métamorphoses des expositions qu'elle documente sous forme photographique et qui peuvent prendre d'ailleurs la forme aussi d'œuvres à venir. Donc il y a tout un enchâssement comme ça qui est, je pense, assez lisible dans les cahiers, dans les portfolios, les 20 portfolios en fait, qui composent le livre. Et je pensais que c'était important parce que ça fait écho à son travail. Je pense est tellement à la fois complexe, mais nécessite d'y entrer par des perspectives qui touchent à tellement de choses. Alors, je pourrais les préciser, mais... qui concerne le travail de Yagna, mais qui, au-delà, concerne des questions C'est un travail artistique qui touche à des questions institutionnelles, des questions d'enchâssement d'œuvres d'autres artistes. Et donc, j'ai moi trouvé qu'il y avait beaucoup de matière à réflexion et à partager, qui était nécessaire à partager aujourd'hui. Et puis aussi, peut-être, pour le dire dans des termes un peu plus vastes, je trouve qu'il y a un travail qui, esthétiquement, travaille une dimension politique, parce que ça déhiérarchise les pratiques, parce que c'est une réflexion sur sa position d'auteur, d'autrice, et dans un sens élargi, que le sujet est toujours mis en question, et le titre du livre le souligne, ce qui était effectivement le titre de la thèse, et qui était une vraie promesse pour un livre comme ça. Je pense qu'on suit vraiment cet itinéraire d'un jeu dilaté, halluciné, ouvert, perméable.
Donc l'idée de la monographie, c'est aussi un prolongement de ton processus de travail, qui est celui de toujours faire intervenir d'autres personnes à l'intérieur de tes expositions. Notamment, ça passe par l'invitation de plusieurs artistes qui sont, il me semble, toujours différents à chaque exposition. Différentes. Et donc, avant d'entrer dans le livre, justement, est-ce qu'on peut revenir sur ce rôle-là que tu prends en charge, qui est celui du commissaire, mais qui, en fait, n'est pas vraiment une double pratique d'artiste-commissaire, puisque tu en parles, je crois, comme du curating naïf, et qui est plutôt un rôle que tu définis comme un geste artistique.
Oui, en effet, je quand j'invite des artistes dans mes expositions, je ne me sens pas du tout dans le rôle de commissaire, parce que je le fais de l'intérieur de l'exposition, et en fait, ce sont pas les mêmes enjeux qu'il y a dans la relation artiste-commissaire. Et en effet, en travaillant sur le livre, avec Émilie, au départ, nous nous sommes dit que oui, ça fait sens de le faire, et allons-y, essayons de, enfin, commençons ce processus. Je me suis dit tout de suite que, comme j'utilise pratiquement chaque opportunité d'exposer pour inviter des artistes à l'intérieur de mon travail, je me suis dit que j'aimerais aussi expérimenter l'espace du livre comme un espace d'exposition où je peux inviter d'autres artistes. Donc, et d'ailleurs, je reviens sur la question que c'est pas toujours des artistes différents dans mes expositions. Il y a des œuvres qui reviennent, il y a des œuvres récurrentes qui reviennent soit en photo, soit exactement tel quel. Il y a certains artistes qui reviennent fréquemment dans mes expositions. Mais pour cette partie d'exposition, on va dire, au sein du livre, qui ouvre le livre, qui est avant la page du titre, qui est d'ailleurs intitulée « La nuit de la scorpion », là, j'ai invité des artistes avec qui j'ai jamais travaillé auparavant. Et je les invitais avec la curatrice Mathilde Belwali.
On va revenir du coup à cette ouverture de livre qui ouvre donc sur ce que tu appelles une nouvelle exposition, ce qui est une nouvelle exposition à travers les premières pages du livre. Est-ce que Martha, peut-être, tu veux parler de la forme du livre pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas le livre entre les mains? Est-ce que tu peux le décrire et parler un peu de tes intentions graphiques?
Oui, alors je ne sais pas si je peux commencer par rebondir sur la scène d'ouverture. Bon, déjà, le livre est plutôt souple, c'était très important. Au début, d'ailleurs, la première chose que j'ai proposée à Yagna, c'est une hardcover, parce que pour moi, une monographie, c'était un peu la classe d'avoir une hardcover. Pour moi, c'était évident, en fait. Et Yagna, tout de suite, en fait, m'a dit « Mais tu sais, en fait, moi, c'est pas si important pour moi, en fait, d'avoir justement cet aspect assez presque un peu autoritaire ou méga luxe. Donc, c'est pour ça qu'on s'est porté ce choix, en fait, vers le papier de la couverture, qui est, en fait, c'est un papier qui est destiné au packaging, initialement. Donc il y a un recto qui est couché blanc, sur lequel on peut imprimer. On peut imprimer des deux côtés. Et le verso, c'est du carton gris pulpeux, sur-recyclé, avec beaucoup de fantômes des anciens usages apparents. Et la couve est aussi imprimée en noir seul. Donc c'est aussi un procédé plutôt humble d'impression. Et ça, c'était aussi un rebond par rapport au travail de Yagna qui a fait cette série de photos et de photocopies. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés autour de beaucoup de photocopies avec Yagna. Elle arrive à faire, en fait, moi, c'est des images qui me fascinent, à produire un effet de argenté, scintillant, comme du mercure, presque chromé, alors que c'est juste du noir, tout simple. Donc voilà, la couverture, c'est ça. Et on a quand même mis une petite goutte de luxe, parce que bon, quand même.
Qui est une dorure ou qui est un ton direct? C'est une dorure?
C'est un marquage à chaud, dorure à chaud, ouais. Ouais, carrément. Okay. Donc chromé, le plus chromé qu'on puisse avoir dans le nuancier. Donc voilà, passer cette petite goutte de luxe, en fait, on rentre dans un espace qui est dans une situation un peu intermédiaire, mais qui est aussi un temps d'expo, pour Yagna. C'était une expo, en tout cas, qui a vécu plusieurs phases d'évolution et qui sont dans les pages du livre. Et voilà, il y a cette scène d'ouverture directe, donc qui est... c'est comme ça qu'on l'appelait entre nous, on ne l'a pas nommé comme ça dans le sommaire, hein, donc qui arrive effectivement avant le vrai début, entre guillemets, du livre, et qui était un espace de jeu, en fait, où ce que tu disais, Yagna, tout à l'heure, de rejouer aussi ton travail dans un espace d'expo, mais à l'intérieur des pages d'un livre. Et au départ, ça devait être un essai visuel que tu proposais, puis en fait, comme cette introduction était aussi le présent, en fait, du moment du livre, et c'était pas, on n'était pas encore dans la rétrospective inhérente à une monographie. Donc c'est pour ça qu'elle a pensé à inviter Mathilde, donc Mathilde Bellouali, qui à l'époque était chargée des expos à Béton Salon. Et c'était une belle rencontre, donc c'est pour ça que la collaboration s'est faite assez naturellement. Et je vais parler de ce petit effet glossy sur les pages. Donc c'est le vernis Flexo. Une couche de vernis super brillante.
Et on est toujours en noir et blanc, enfin pour
oui, toujours en noir, ouais. Et en fait, les images choisies aussi sont assez dark, et les artistes avaient comme ça des caractéristiques dans leur travail un peu donc du monde du tatouage ou un peu border BDSM ou crypto BDSM ou carrément BDSM pour certaines artistes, une en particulier.
Et comment la discussion elle s'est faite entre toi, Yagna et Martha pour justement la conception graphique de ce livre? Est-ce que c'était des propositions, des va-et-vient comme ça, ou tu avais déjà une idée de ce que à quoi pouvait ressembler la monographie que tu te projetais?
D'abord, c'était juste un désir de travailler ensemble. Où j'ai invité Martha, on a invité Martha pour réfléchir à ce livre avec au départ juste une volonté de travailler ensemble, et puis ça a été un long processus. Donc à différents moments, on a discuté, par exemple cet emplacement de cette partie, cet essai visuel entre guillemets dans le livre. Nous avons réfléchi à différentes possibilités. Est-ce qu'il englobe le livre, qu'il soit devant, au début et à la fin, ou qu'il l'intercale, machin. Et en fait, on a beaucoup discuté, mais il y a quand même une grande partie
des décisions,
tout ce qui concerne la mise en page. C'est Martha qui a amené son goût et son expertise, et on est très heureuse avec ça.
Peut-être on peut préciser aussi que la relation de travail entre Yagna et Martha s'est faite autour de l'exposition Le pli du ventre cosmique.
Oui,
et
vrai.
Que c'était le moment où...
Donc c'était l'exposition qui avait eu lieu à Béton Salon en 2000...
D'abord, il y avait un premier volet à Imagitmage, le centre d'art à Orthez, et un deuxième à Béton Salon. Et Martha apparaissait dans l'exposition avec une présence picturale, une affiche... avec une affiche qui était, j'ai l'impression, un peu pour Martha, une première expérience de composition visuelle hors cadre éditorial, ou je dirais, en tout cas, ça t'a déplacé dans ta fonction de graphiste. Et ça, c'est aussi ce que sait faire Martha. Je vais regarder en face de moi, pardon, pour le... C'est ce que sait faire Yagna, pardon, dans les relations de travail avec des gens, de réussir à faire que les fonctions soient un peu floutées et que la relation de confiance permette de se déplacer. Et je pense que c'est aussi pourquoi Martha avait déjà saisi depuis l'intérieur, en fait, l'esprit du travail de Yagna.
On va rentrer dans le livre dans quelques instants. Juste avant, je voulais justement poser la question à Martha, le fait que tu sois designer graphique. Est-ce qu'on a souvent, on t'a souvent donné l'opportunité comme ça de déplacer ta pratique, donc d'avoir un rôle au sein d'une exposition d'art contemporain ?
Malheureusement, pas souvent. Enfin, que je trouve ça toujours intéressant de pas être... Je parle de graphisme-graphisme et ça m'ennuie profondément comme la pluie. Quand c'est l'épicentre d'une activité et que... et donc, ouais, non, c'est assez rare. J'ai déjà été invitée dans des territoires de recherche, aussi de pédagogie, parce que c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Et de dessin, j'ai eu une vie de dessinatrice de BD. Et donc, ouais, en fait, moi, ça m'intéresse de... C'est drôle, il me vient à l'esprit... une phrase que mon prof m'avait dit à l'école en me disant « Fais attention, à force de vouloir tout faire, de rien faire, de risquer de rien faire. » Et cette phrase, sur le moment, m'avait choquée. Et je m'étais dit « Mais c'est pas logique du tout. Enfin, je vois pas quelles sont les limites, en fait. » Et c'est particulièrement français, peut-être, dans le champ du design graphique. Moi, j'ai commencé à travailler à Berlin dans ma vie et c'était beaucoup plus élastique et sans que ce soit d'ailleurs un sujet. Enfin, c'était plutôt souple et ça se faisait de manière assez fluide, en fait. Et c'est cool. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien qu'on m'amène ailleurs que ce qui est censé être ma pratique principale. Enfin, voilà.
I'm in the moon. I'm in the space. I'm in space. I'm in a star. I'm in everything. I'm in a flower. I'm in everything I want. I'm in space. I'm in a ship.
Donc c'est une pièce sonore qui s'appelle In Everything, qui date de 2020, qui est une impro de Aïcha Atala, qui a donc 5 ans, qui est la fille de Sheila Atala, et qui improvise sur la musique donc de sa mère, qui a été diffusée dans ton exposition Le pli du ventre cosmique. Tu veux nous dire un mot sur ça, ou on enchaîne?
Ce que je peux dire pour revenir sur le livre, parce que évidemment je pourrais parler longtemps, mais quand je préparais l'exposition Le pli du ventre cosmique pour Orthez, donc le premier volet, j'ai entendu cette chanson que Sheila Atala, donc l'autrice, la musicienne, et aussi mère de Aïcha, avec qui elle a fait cette chanson en collaboration, m'a envoyée comme ça pour l'écouter, parce qu'on est amis, parce qu'on se connaît et on se donne des retours sur notre travail. Eh bien, ça collait parfaitement à ce que j'étais en train de construire pour cette exposition. Et donc, j'étais très heureuse de pouvoir diffuser cette chanson dans l'exposition Le pli du ventre cosmique, d'abord à Orthez et ensuite à Béton Salon, à Paris. Et dans l'exposition à Image Image à Orthez, nous avons fait un reader dans lequel il y avait des textes de différentes artistes que j'avais invitées également dans l'exposition et aussi mon texte, qui a été mis en page par Martha Salimbeni. Mmh. Et la page avec le poème a été scannée et on peut la retrouver aussi dans le livre, je ne sais pas quel numéro de page. Comment ?
Non, c'est vers la fin.
Vers la fin.
C'est page 243. Ouais.
Puisqu'on y est... Oui, page 200. Donc il y a la reproduction à la fois de ce... Il y a la publication à la fois de ce poème de... d'Aïcha, qui est le texte de la chanson d'Aïcha et de Sheila, et à la fois c'est un scan du reader qui s'appelait Tempête solaire et que ensuite j'ai invité, c'est pas lié directement, mais quand j'ai invité Martha à exposer en tant qu'artiste au sein du deuxième volet du Pli du ventre cosmique, Martha a proposé...
C'était notre première rencontre, en fait, deuxième.
Une œuvre graphique, qui faisait lien avec la tempête solaire. Voilà.
Donc, à l'intérieur de la monographie, il y a donc cette nouvelle exposition qui est à l'ouverture du livre, et puis plusieurs textes et images de tes expositions précédentes. Ces textes-là, c'est à la fois une commande, mais il me semble qu'il n'y a pas eu vraiment de contraintes d'écriture. Comment ça s'est passé ces interventions, justement, parce que tu me disais avant l'émission que justement le but c'était pas d'inviter que des critiques d'art et que justement les rôles étaient ceux d'artistes, d'écrivains, d'écrivaines.
Je pense que c'est aussi, ça reflète encore une fois la manière de Kayagna de travailler en compagnonnage sur le temps long. Et c'est vrai que les autrices invitées sont toutes et tous liées d'une manière ou d'une autre au travail et à des moments de la vie de Yagna. Alors je ne sais pas si... Oui, on peut citer... On peut dire que Maud Jacquin, quand même, qui est co-éditrice de l'ouvrage, a aussi travaillé beaucoup avec Yagna par le passé sur des expositions, et avait écrit à l'occasion... du pli du ventre cosmique à Béton Salon. Et puis, c'est un texte qui prolonge sa réflexion sur qu'est-ce que représente cette volonté d'absorption dans le travail de Yagna, ou cette ambivalence, en tout cas, de la relation contenante et presque anthropophage. Je ne sais pas si c'est ces termes. Il y a par exemple un texte de Dominique Figarella qui a accompagné aussi Yagna dans sa recherche doctorale et qui prolonge là aussi son intervention au moment de la soutenance sur la question de la politique des traces. Et je ne vais pas tous les énumérer, mais en tout cas, il y a un très beau texte aussi Stéphanie Garzanti, pardon. Je bloque sur son nom parce qu'en fait c'est un texte polyphonique avec beaucoup d'autres personnes
qui a demandé la participation, je sais pas, mais qui en tout cas a utilisé plusieurs voix dans son texte, comme le fait Yagna aussi dans
c'est
son
ça.
Travail.
Oui. Ouais.
Il y a aussi, il me semble que c'est Émilie Noteris aussi qui fait résonner ton travail avec celui de trois autres artistes dans son texte.
Avec Isa Gensken, Charlotte Posenenske et Alina Chapochnikov. Et il y a aussi, on a nommé presque tout le monde, donc je vais aussi parler de Marta Dziwańska, qui a fait encore un texte qui a un regard sur mon travail encore différent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que aucun de ces textes ne répète le précédent. Et celui de Marta Dziwańska qui s'appelle Une performance sans fin. Et puis le texte de Mathilde Belwali qui a une autre encore
qui
a un autre statut parce que c'est le texte qui accompagne l'exposition dans le livre, l'exposition qui s'appelle La nuit de la scorpion, et le texte qui s'appelle Scorpion moiré, velours courant, cuir légitimé.
Justement, comme on en est au titre des expositions, tu me disais quand on s'est vu avant l'émission que c'est Émilie, je crois, qui suggérait de lire un peu le travail à travers les titres, ou en tout cas le champ lexical utilisé qui est aussi celui du physique, qui est assez charnel, qui est de l'ordre du plaisir. Donc on y voit voilà, découverte masticatoire, le pli du ventre cosmique, Eat the Blue. Et il me semble qu'il y a un titre aussi de texte qui dit « La seule et unique femme foule ». Et j'ai trouvé ça assez...
texte d'Émilie Noteris.
Ouais, d'Émilie Noteris. Voilà, je trouve que c'était une belle lecture parce que je me suis interrogée en lisant certains textes. Je n'ai pas pu tout lire, mais en tout cas, justement un vocabulaire charnel aussi dans tous les textes. Et je me suis demandé si c'était une contrainte que tu avais donnée ou si c'est arrivé vraiment naturellement des auteurices, ce rapport au champ lexical, justement, du plaisir.
Non, il n'y avait aucune contrainte que j'ai donnée à aucune des personnes qui ont écrit. Ni les directrices éditoriales. Enfin, je pense que chaque invitation s'est faite avec une forme de... une carte blanche. Et je pense que si ces images apparaissent dans les titres et au sein des textes, c'est que, quelque part, c'est une manière de lire mes expositions.
Et il y avait d'ailleurs, je crois, je reprends la citation qui introduit le texte d'Émilie Noteris, qui est aussi assez belle, une citation de Dany Lebrun dans le Sur le champ, qui dit « Tous les chemins de traverse étaient bons pourvu qu'ils emmènent le plus loin possible. Tous les points de départ étaient bons pour engendrer l'imaginaire trajectoire vers des points d'arrivée qui n'existent pas. » Et voilà, j'ai trouvé que c'était... Enfin, je me suis demandé si justement tout ce travail d'invitation d'artistes et de travailler comme ça le collectif d'une certaine manière, c'était aussi volontairement, enfin c'était une volonté justement d'éviter d'être rassasié.
D'éviter
d'être rassasié, de trouver une fin à ce travail.
Je pense que je n'ai jamais vu mon travail dans une logique d'évitement, mais plutôt dans une logique de inverse, c'est-à-dire de se lancer complètement dans quelque chose. Je ne sais pas vraiment comment répondre à comment prolonger cette citation, sinon par une image, parce que en fait, ce livre d'Annie Lebrun, il était présent dans une des expositions qui s'appelait « L'un dans l'autre ». Et cette exposition empruntait son titre à un tableau de Toyen, artiste surréaliste, qu'on n'a pas pu emprunter pour l'exposition pour des raisons techniques, mais qui apparaît dans l'exposition en tant qu'illustratrice de ce livre d'Annie Lebrun. Donc, c'est pas du tout une réponse, mais c'est une esquive,
ouais,
c'est... une manière d'éviter.
Ben voilà. Est-ce que tu veux lire le poème, peut-être, qu'on a prévu ? Oui ?
Donc, peut-être pour introduire ce poème, c'est... Il est imprimé dans le livre, il se trouve à la page 116, et il fait partie de 4 textes qui sont des fictions d'exposition et qui faisaient partie d'un travail intitulé « The House of Lust » que j'ai réalisé en 2016 à New York, à The James Gallery, dans l'exposition « The House of Dust » by Alison Knowles, qui était curaté par Maud Jacquin et Sébastien Pluot, et qui m'a invité à l'époque dans cette exposition. Donc, Ma proposition mêlait textes qui étaient des fictions d'exposition et images et formes plastiques qui arrivaient de manière progressive dans l'exposition. Et donc, oui, je peux lire le quatrième texte. Et chacun de ces textes et chacun des scénarios d'exposition s'inspirait d'un quatrain de ce poème infini de Alison Knowles qui s'appelle The House of Dust. A house of hair in a hot climate, existing in darkness, inhabited by people who sleep almost all the time. A quatrain from The House of Dust by Alison Knowles. October 28, 2016. Wet dreams. Our bed is a room, is a piano, is a woofer, and briefs. James Ensor above us and all around. Endless bodies, vibrant impastos, shells, 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 and fans, and chinoiserie, and skulls. Oh. Our bed is a black paravan and a pedestal with moss. Walls about serve us on lacquer platters, suprematist sculptures by the artist, Cobro. War, black, yellow, metal, wood, and blue. Mm. Coiled inside sun tunnels, our spacecraft by the moon. Moonlight, gravity, love, soft, gentle bodies distort till the air fries. Through concrete circles, holes of mica black and dust. Ah.
Tu veux nous dire quelques mots en plus dessus, c'est bon? Pourquoi tu as choisi celui-ci parmi les quatre?
Bon, j'ai choisi celui-ci parce que c'est le plus court, donc c'est le mieux approprié pour lire, entre autres. Mais aussi parce qu'il est quelque part le plus radical, parce que dans les quatre textes, de point de vue linguistique, quoi, littéraire, parce que dans les quatre textes, en fait, la toute première fiction, elle est très descriptive, très concrète, avec une liste d'œuvres. Ce sont des fictions d'exposition qui mettent en place une sorte de setting, qui décrivent un projet et qui parle des artistes invités. Et le tout premier est le plus long et le plus descriptif, même s'il n'est pas vraiment réalisable, mais reste relativement réaliste. Et ensuite, plus on progresse et plus ces fictions d'exposition deviennent surréalistes, un peu science-fictionnelles. Et le tout dernier est en fait un poème d'amour, ou une sorte de chanson peut-être, mais la musique n'a pas été écrite encore, et qui s'appelle Wet Dreams, et qui est vraiment construit comme les rêves, où en fait les œuvres d'art apparaissent de manière complètement surréaliste, onirique, et ça se termine par Sun Tunnels, donc une œuvre de Land Art de Nancy Holt, qui devient ici un vaisseau spatial des amoureuses. Donc c'est voilà, c'est peut-être le texte que j'aime le plus.
Et juste question, j'avais pas pensé, mais quand tu écris, c'est toujours en série ou tu as écrit des textes autonomes ou des poèmes autonomes ou tu les travailles toujours?
Alors j'écris pas beaucoup. Hein. J'écris vraiment occasionnellement. Enfin, ça fait partie un peu des pas de côté, des formes que je produis habituellement. Et donc, non, j'écris pas par série. Là, c'était une série parce que c'était écrit vraiment dans le rythme de l'exposition qui évoluait pendant un mois. Donc, pendant un mois, il y avait plein de choses qui évoluaient dans mon travail et qui se nourrissaient à la fois des quatrains du poème d'Alison Knowles, The House of Dust, qui était quotidiennement, qui était en permanence généré par l'ordinateur, et à la fois ça se nourrissait un peu de mes déambulations à New York, et à la fois de ce qui apparaissait sur le mur, c'est-à-dire des formes plastiques que je faisais sur le mur. Donc là, c'était le contexte qui faisait que ça produit une série de textes. Mais d'autres textes arrivent de manière très organique et inorganisée.
Si on reste sur le texte, Martha, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les deux typographies que tu as choisies pour la monographie ?
Oui, avec plaisir. oui, bah, c'était pour le choix. C'était important que ce soit des meufs. Évidemment, j'ai envie de dire. Il y a deux typographes donc, qui ont composé les typos de cet ouvrage. La première, c'est Yong Myung Lee, qui est une typographe qui a fait ce fabuleux endroit qui s'appelle la Werkplatz Typographie en Hollande, et qui est un lieu, justement, on en parlait tout à l'heure, où les personnes qui initialement pratiquent le design graphique peuvent ensuite déployer des recherches beaucoup plus polymorphes et approfondie. Donc Yong Myung Lee est typographe, mais ne serait-ce que son site web est déjà une œuvre, en fait. C'est une typo qu'elle avait commencé à designer depuis un moment, qui s'appelle Limpet, J-I-L, comme Yong Myung Lee, Limpet. J'attendais comme le Messie les italiques, et c'est tombé à point nommé parce que juste le moment où on travaillait sur le livre de Yagna, les italiques, elle avait designé les italiques. Et ensuite, l'autre typo, c'est Diorama Gothique, pour les textes en anglais, donc c'est la linéale de contraste, quoi, pour l'autre langue. Et elle a été designée par une amie chère qui s'appelle Marie-Mam Saïbélier, et qui a eu, qui est en duo pour la fonderie Diorama. Qui est plus les deux typos. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont l'air assez classiques, entre guillemets. Enfin, on a une linéale et une typo à sérif. Évidemment, il fallait que ce soit très lisible et pas trop farfelu, hein, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de textes, justement, d'en parler, et pour un confort de lecture, et en même temps, elles ont une subtile extravagance. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien amener dans tout ce que je fais, ce truc qui a l'air un peu straight comme ça en apparence, mais en fait, quand on regarde bien, c'est un peu chelou.
Est-ce que vous voulez ajouter un mot sur le projet qui est lancé ce soir, il me semble, sur le stand Mousse Publishing, enfin qui a déjà été lancé, mais où c'est le lancement ce soir officiel?
On est en tournée là, en fait. Hein.
Ouais, c'est une tournée. C'est une tournée de Rockstar. Du coup, y aura une signature après, c'est ça, sur le stand de Mousse Publishing. Et est-ce que vous voulez dire un mot sur la suite peut-être du projet ? Est-ce que justement sur cette tournée, il va y avoir des interventions d'artistes ?
On a déjà une date le 10 janvier à 19h à Béton Salon. On espère pouvoir réunir beaucoup des personnes qui sont dans le livre, parce que au-delà des auteuristes et de l'équipe comme ça éditoriale, il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont visibles dans ce livre. Donc on aimerait que ce soit un moment un peu... peut-être de redécouverte et peut-être festive, enfin on verra, et polyphonique en tout cas de lancement de ce livre.
C'est le lancement à la maison mère, c'est comme ça qu'on l'appelle entre Béton Salon, c'est la maison mère.
Okay. Yagna, tu veux dire un mot? Non, ça y est. Merci à toutes les trois, Émilie, Martha et Yagna.
Je peux dire un mot?
Oui, bien sûr.
Bon, je vais dire un mot très classique, mais très sincère. Encore une fois, grand merci à toutes les personnes, à toutes les meufs qui ont contribué à ce livre, et parce que c'est vraiment un travail collectif qui a donné ce fruit et qui nous rend très heureuses. Voilà. Donc, merci Émilie, merci Martha. Merci Maud, ouais. Qui n'est pas avec nous, mais qui est dans
Maud Jacquin.
Et toutes les personnes qui ont contribué, qui ont écrit, aux artistes qui ont été à la fois dans l'expo, dans le livre, mais tous les artistes, toutes les artistes, tous les artistes qui ont été montrés dans mes expositions et qui sont visibles dans, dans ce livre.
D'ailleurs, je me souviens plus qui dit dans le livre, il parle de tes expositions comme des clairières. Comme des clairières. Il y a un texte
qui
en
parle. Ah oui, des clairières, oui, ouais. Oui. Oui, c'est Stéphanie Garzanti.
Voilà, et je trouve ça assez joli de parler. Ouais. De super clairière. La monographie donc Jeudi Laté, Image liquide et plantes carnivores est disponible en librairie maintenant, elle est distribuée par les presses du réel.